Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette session d'actualité, deux morts et deux motos incendiées, c'est le bilan provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles ADF hier soir au quartier Mangondomu à Bénéville. La société civile interpelle à nouveau les autorités pour mettre fin à ces cycles de violence. À suivre également dans ce journal, les femmes leaders du Maniema recommandent au chef de l'État de laisser main libre à la première ministre afin qu'elle travaille en toute indépendance pour réaliser sa vision. Dans une déclaration lue hier à Kindu, ces femmes promettent leur soutien moral et spirituel à la chef du gouvernement congolais. Nous recevons dans ce journal le colonel Mungu Akonkwa Matabisi Mokili, expert et coach en gouvernance sécuritaire. Il nous parle de la participation de la jeunesse à la restauration de la paix et de la sécurité dans la ville de Goma. Bonjour à tous. En Nord-Kivu, au moins deux morts et deux motos incendiées, c'est le bilan jusque-là provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles des ADF jeudi soir dans le quartier Mangondomu à Mangina. C'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. La société civile interpelle une fois de plus les autorités pour mettre fin à ce cycle infernal de violence. C'est un récit de Sadiki Aboubakar.
Des sources sécuritaires sur place rapportent que ces rebelles seraient venus de Mundubiena, un village qui a été la cible de plusieurs attaques des ADF ces dernières semaines. Sur leur chemin, ils ont décapité une personne dont le corps a été abandonné sur la route. C'est en allant récupérer le corps de la victime que les militaires des FARDC sont tombés dans une embuscade tendue par ces rebelles. Lors de l'échange des tirs, un autre groupe de rebelles a profité de la situation pour faire incursion dans le quartier Mangodomo à Mangina vers 17h heure locale. Ici, ils ont brûlé vif un conducteur de moto-taxi et incendié trois motos avec marchandises. Cette situation a été à la base d'un déplacement massif de la population. De nombreuses familles se sont déplacées vers le centre de la cité de Mangina. La société civile de Mangina appelle l'armée et ses partenaires à tout mettre en œuvre pour protéger la population et ses biens. Mungozi Kakulevunyati est son président.
Toutes les dispositions doivent être prises pour sécuriser la population de Mangina parce que nous sommes fatigués par ces massacres des civils.
Pour sa part, Emmanuel Katembo Salamou, bourgmestre intérimaire de Mangina, indique que la promptitude de l'armée lors de cette attaque a permis de limiter les dégâts. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Pendant ces temps, dans les territoires de Beni, la société civile du groupement des Basongora dénonce la recrudescence de l'insécurité à Kasindi Lubiria, une cité frontalière de l'Ouganda située à 80 km de la ville de Beni. Dans un communiqué publié mercredi, cette structure citoyenne affirme que depuis le début de ces mois, 5 personnes ont été blessées à l'arme blanche et plus de 20 maisons d'habitation cambriolées par des hommes armés. Marcel Moussouba Ombassa, président de la société civile du groupe des Basongora appelle à la sécurisation de la population. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
Il ne se passe plus une nuit où nous n'attendons plus. Tel citoyen a été cambriolé, tel a été blessé. Considérons la gravité de cette situation qui, une fois mal gérée, risque de dégénérer. Les forces vives du groupement Basongora recommandent à l'appareil sécuritaire d'organiser l'administration locale en commençant par le 10 maisons et mettre une rigueur dans l'identification des visiteurs. De traquer le maison de tolérance ou QG, d'interdire les mouvements de tous les commerçants ambulants étrangers, d'instituer un système de contrôle sérieux à toutes les entrées, de remettre la jupe de la police à bon état et en mobilité permanente, d'accélérer le processus de mutation des agents ayant longtemps été dans la zone telle qu'est déjà recommandée par la population. À la population d'être vigilante, d'orienter les alertes acquis de droit et en temps utile.
Nord Kivu toujours, la recrudescence de la criminalité dans la ville de Goma ces derniers jours est le fait de l'ennemi qui vise à opposer la population aux autorités. Ceci ressort du diagnostic fait par le colonel Mungu Akonkwa Matabisi Mokili. Cet expert et coach en gouvernance sécuritaire qui intervenait lors d'une conférence autour du thème « La participation des jeunes à la restauration de la paix et de la sécurité dans la ville de Goma » a encouragé la jeunesse à ne pas tomber dans la manipulation de l'ennemi. Suivez cet extrait de propos du colonel Mungu Akonkwa Matabisi Mokili, choisi par Chris Mukand.
Tout ce que nous sommes en train de traverser à Goma, les enlèvements, les assassinats, ce ne sont que des manipulations ennemies. Aujourd'hui, ce sont les Bazalendo qui constituent l'objet de matraquage par les mauvaises langues qui veulent diviser les Bazalendo contre la population, les Bazalendo contre le FARDC, et cela dans l'objectif, n'est-ce pas, de fragiliser cette collaboration opérationnelle afin que l'ennemi puisse effrayer un chemin. Cela a été fait en 1996. On avait divisé d'abord des ex-FAR et les ex-FAS, qui étaient des armées très fortes de la sous-région des Grands Lacs. Ils avaient divisé à la fois ces deux armées contre la population. Et grâce à cette stratégie-là, la République démocratique du Congo était tombée dans moins d'une année entre les mains de l'ennemi. C'est la même stratégie que l'ennemi utilise aujourd'hui. Et donc, cette hausse de la criminalité dans la ville, c'est un fait annonciateur d'une crise politique et c'est une arme que l'ennemi utilise pour se frayer un chemin facile, se crédibiliser au milieu de la population.
Signalons que la conférence au cours de laquelle le colonel Mokili est intervenu fut organisée par les parlements de jeunes de la ville de Goma mardi 16 avril. Au Nord Kivu encore, la situation sécuritaire et humanitaire reste dégradée ce vendredi dans l'agglomération de Kibirizi, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. C'est après des violents combats qui ont opposé toute la matinée hier jeudi les rebelles du M23 à une coalition des trois groupes armés locaux dans les environs. Selon les sources locales, les combattants locaux ont attaqué les rebelles tôt vers 5 heures locales et les combats se sont poursuivis jusqu'en début d'après-midi hier jeudi dans les villages Kabanda, périphérie nord de Kibirizi. En ce moment, le M23 a repris le contrôle de la zone alors que les combattants locaux se sont retirés autour du village. Selon nos sources, cette situation crée de l'incertitude dans la zone, forçant certains habitants à quitter Kibirizi à nouveau pour se déplacer vers Birundule et Kanyabayonga, entre autres. Dans la province du Maniema, les femmes leaders de la coalition des femmes du Maniema s'associant à la division provinciale du genre recommandent au chef de l'État de laisser main libre la première ministre Judith Suminwa de travailler en toute indépendance afin de réaliser sa vision. Reconnaissant les défis qui attendent cette dernière, les femmes leaders du Maniema promettent leur accompagnement moral qu'est spirituel à la chef du gouvernement congolais. On écoute un extrait de leur message lu par Madame Esther Apendeki, présidente de la coalition des femmes leaders du Maniema, choisies par Florence Kizalunga.
Excellences, Monsieur le Président, nous sommes rassurés que la nomination de Madame Judith n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un choix judicieux à ce moment où la RDC traverse de nombreuses difficultés. Ainsi, Excellences, Monsieur le Président, les femmes du Maniema demandent votre indulgence pour l'accompagnement de celle-ci en la laissant travailler mais libre dans toute indépendance pour que dira son mandat et réalise sa vision et son bilan afin de sauver la RDC. Les femmes du Maniema profitent de ces messages de remerciement pour transmettre leurs félicitations à Madame la Première ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement de la RDC et la recommande d'avoir un engagement ferme, une détermination dans tout ce qu'elle entreprenne, d'avoir également le sens d'excellence et d'être une église au milieu du village en rassemblant toutes les filles et fils de la RDC pour reconstruire l'unité et la consolidation de la paix dans notre cher et beau pays. Elles savent bien que la tâche n'est pas facile pour vous, car les défis à relever sont nombreux.
Dans le même chapitre, revenons sur cet appel, nous demandons à la première ministre Judith Suminwa de continuer sur la voie tracée par le président de la République pour assurer la protection et la promotion de la personne vivant avec handicap en RDC. C'est en ces termes que la dynamique nationale pour la promotion et le développement des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Dina Prod, a adressé ce jeudi 18 avril son message à la nouvelle chef du gouvernement. Au cours d'une conférence de presse ici à Kinshasa, José Zoubi, président de cette organisation sans but lucratif, invite la première ministre à poursuivre les avancées déjà enregistrées pour cette catégorie de personnes. José Zoubi, l'édite à Grâce Amzati.
Nous avons constaté lors du premier quinquennat le président de la République, par les trichements du ministère des personnes avec handicap, avait fait beaucoup d'avancées, notamment la promulgation de la loi portant protection et promotion des personnes avec handicap et plusieurs autres avancées que nous avons citées ici. Ce qui préoccupait beaucoup de personnes avec handicap, c'était la question du chômage. Et maintenant, ça vient d'être résolu par la promulgation des décrets qui venaient d'être pris maintenant par le ministre de la fonction publique. C'est que maintenant, dans notre pays, dans les secteurs publics, chaque fois qu'il y aura un recrutement, il faudra qu'il y ait au moins 5% de personnes avec handicap dans le poste de recrutement. Et nous avons pensé également que c'est l'occasion pour nous d'abord de féliciter la Première ministre et de lui dire que nous avons encore beaucoup d'autres chantiers à continuer et si possible que nous puissions continuer cette lancée-là qu'avait tracé le président de la République lors du premier mandat, afin que la personne avec handicap puisse réellement se retrouver.
Et puis, les bureaux d'âge de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga récemment évincé revient à la charge. Son président dit ne pas reconnaître les bureaux provisoires récemment installés par les députés provinciaux à la suite de la pétition initiée contre lui et les autres membres de son bureau. D'autres détails avec les rapporteurs de l'ancien bureau d'âge Julien Cassagna dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
L'alinéa 3 de notre règlement 198 demande aux pétitionnaires d'indiquer dans leur pétition les domiciles et les coordonnées pour permettre de les identifier, de connaître où ils vivent, même pour bien les contacter. Des éléments substantiels ont manqué dans leur pétition parce que dès que la pétition est adressée, ici par exemple à l'organe délibérant, elle est adressée au président de l'Assemblée provinciale qui va vérifier la recevabilité et va en informer l'Assemblée plénière. Et il va transmettre aussi cette pétition à la commission permanente. Il y aura un débat sur ça. L'article 18 de notre règlement nous dit qu'un débat extérieur à nos trois missions, ça signifie à la validation des pouvoirs, à l'élaboration du règlement intérieur et à l'élection et installation du bureau définitif, ne peut pas avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. Mais eux nous ont adressé une pétition. Le fait qu'on doit informer l'Assemblée plénière de la recevabilité, il faut qu'on transmette ça à une commission permanente. On doit en faire un débat et nous allons violer l'article 18. Mais parce que eux nous ont adressé une pétition et en vérifiant les éléments substantiels qui manquent, nous pensons qu'elle est irrécevable et les conséquences sont nulles et de nul effet.
Dans le domaine de l'environnement et développement durable, une réunion de plus de 40 acteurs œuvrant dans la protection de l'écologie a porté sur la structuration du mécanisme financier unique destiné à mobiliser des financements internationaux pour appuyer le plus directement possible des initiatives d'autonomisation des communautés locales et des peuples pygmées autochtones a eu lieu hier à Kinshasa. D'après Nikaïs Kingunya, point focal de la Convention sur la biodiversité biologique, la mise en place de ces fonds d'ici 2025 va faciliter la mobilisation des ressources devant aider à la réalisation des projets directs en faveur des communautés locales et des peuples vivant dans les forêts du bassin du Congo. Il est dit au micro de Tati Mapoukou.
La création de ces fonds va d'abord faciliter l'obtention des financements auprès des communautés. La protection de ces forêts-là doit contribuer également à augmenter l'espace des forêts conservées. Donc ça va aider à ce que nous puissions répondre aux engagements internationaux que nous avons pris dans le cadre des CDB, surtout à travers la cible 3 sur le cadre mondial de la biodiversité et commune Montréal.
Autre nouvelle, à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, les travaux de construction de l'hôpital Notre-Dame du Bon Secours évoluent en bonne et due forme après au moins 11 mois de la pose de la première pierre, constat fait par Monseigneur Donatien Bafouindi Soni, évêque du diocèse d'Inongo, qui a effectué mercredi une visite d'inspection sur terrain. L'objectif de cette visite a été de palper du doigt l'évolution des travaux dont la responsabilité lui a été confiée. D'après ces pasteurs, la construction de ces centres hospitaliers est financée par les gouvernements congolais dans le cadre de ces actions à impact visible pour le bien-être de la population. Les propos de Mgr Donatien Bafouindi Soni ont été recueillis par Irène Mboma.
Je suis venu à jeter un coup d'œil, pas seulement un coup d'œil, mais regarder attentivement le travail qui se fait, les constructions du centre hospitalier Notre-Dame du Bon Secours, ici à Inongo, qui est au fait un projet qui a été financé par le gouvernement. en collaboration avec l'Église catholique, donc la CINCO, et différents diocèses ont reçu l'argent du gouvernement pour des projets, comme ils disent, à impact visible. Et nous, au diocèse, nous avons pensé construire ce centre hospitalier parce qu'il n'y a pas de développement sans santé. Et nous avons pensé que la ville d'Inongo avait besoin d'un hôpital, si on peut dire, d'une structure de santé pour la population. Nous avons constaté que les travaux avancent très bien, les bâtiments sont bien faits, sont solides, mais il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, il est clair que quand ça va se terminer, il faut des équipements, il faut des intrants comme des médicaments, etc. Et ça demande encore des gros moyens. Et là, je pense que le peu que nous avons pourrait nous aider à achever les travaux qui sont en train d'être faits.
Cependant, l'évêque d'Inongo demande aux personnes de bonne volonté d'appuyer les diocèses pour terminer complètement ces travaux.
Actualité internationale.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a approuvé la semaine dernière une nouvelle version du vaccin contre les choléras fabriqué par Ebiologique, qui a produit également la formule utilisée actuellement pour endiguer l'épidémie. La nouvelle version s'appelle Evicol-S. Créée à partir d'une formule plus simplifiée, les nouveaux vaccins Evicol-S utilisent moins d'ingrédients, lui permettant d'être plus rapide à fabriquer et moins cher. Les vaccins s'est révélé efficaces dans la prévention de la maladie lors de recherches menées au Népal à un stade avancé.
L'invité.
Expert et coach en gouvernance sécuritaire, le colonel Mungu Akonkwa Matabisi Mokili est l'invité de ce journal. Intervenant lors d'une conférence initiée par le Parlement de jeunes de Goma, il a parlé de la participation de la jeunesse à la restauration de la paix et de la sécurité dans la ville de Goma. Chris Mukand l'a joint pour obtenir la quintessence de son message à l'endroit de la jeunesse. Suivez.
Colonel Mungu Akonkwa Matabisi Mokili, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez été invité à participer à une conférence organisée par le Parlement des jeunes de Goma. Quel a été le message que vous avez porté à la jeunesse de Goma?
J'étais très content avec le thème même de la conférence, dans la mesure où, à travers ce thème-là, la jeunesse elle a exprimé vraiment les vœux d'être une actrice pour la paix et la sécurité. J'ai profité de leur dire que la recrudescence de la criminalité dans les villes de la République démocratique du Congo a toujours existé lorsque nous tendons vers une crise politique. Il y a des enlèvements, des kidnappings, des viols qui se multiplient chaque fois que la République est attaquée par un complot des voisins. Cette stratégie paraît comme une arme de l'ennemi pour, n'est-ce pas, briser la confiance qui existe entre la population et les services de sécurité et créer une fossé de collaboration entre la communauté et les autorités publiques, et à cette marge-là, que l'ennemi puisse y trouver un chemin facile pour arracher une certaine crédibilité de la population. Et j'ai réveillé la jeunesse dans ce sens-là, qui a compris que tout ce que nous sommes en train de traverser à Goma, les enlèvements, les assassinats, ce ne sont que des manipulations ennemies. Aujourd'hui, ce sont les Bazalendo qui constituent l'objet de matraquage par les mauvaises langues qui veulent diviser les Wazalendo contre la population, les Wazalendo contre le FARDC, et cela dans l'objectif, n'est-ce pas, de fragiliser cette collaboration opérationnelle en fait que l'ennemi puisse frayer un chemin. Cela a été fait en 1996. On avait divisé d'abord des ex-FAR et les ex-FAS qui étaient des armées très fortes de la sous-région des Grands Lacs et ils ne s'étaient pas limités là-bas. Ils avaient divisé à la fois ces deux armées contre la population et grâce à cette stratégie-là, la République démocratique du Congo était tombée dans moins d'une année entre les mains de l'ennemi. C'est la même stratégie que l'ennemi utilise aujourd'hui. Et donc, la jeunesse a compris que cette hausse de la criminalité dans la ville, c'est un fait annonciateur d'une crise politique et c'est une arme que l'ennemi utilise pour se frayer un chemin facile, se crédibiliser au milieu de la population.
Vous avez quand même parlé aussi de la responsabilité de tout un chacun par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire.
Il y a tout le monde qui est responsable de la situation sécuritaire, que tout le monde mette le main dans la pâte pour voir comment contenir la situation sécuritaire. À l'heure où je vous parle, il y a de grandes initiatives dans la ville pour le plan de contingence et je suis sûr que comme la population a déjà compris quelle est la stratégie que l'ennemi utilise, avec tous les efforts que le gouvernement provincial et les services de sécurité fournissent pour contenir la situation, en tout cas dans peu d'états, la province du Nord Kivu pourra être rétablie dans son intégrité grâce aux efforts de l'armée de la République démocratique du Congo qui n'a ménagé aucun effort pour récupérer les entités sous contrôle ennemi. Mais aussi à l'intérieur ici, il y a un grand engagement de toute la communauté sécuritaire en collaboration avec la population pour mettre hors d'état de nuire tous les auteurs de cette criminalité qui nous endet chaque jour et à tout moment.
Et particulièrement la jeunesse, qu'est-ce que vous lui demandez pour participer effectivement à la sécurisation dans la ville de Goma et en général dans la province du Nord Kivu?
La jeunesse doit d'abord vulgariser ce message-là, cette arme de l'ennemi, pour qu'elle ne puisse pas exposer notre pays à une menace d'agression telle qu'il en est le cas, collaborer parfaitement avec les services de sécurité en dénonçant et en accompagnant l'État dans ses efforts de rétablissement de la paix, pour voir dans quelle mesure on va mettre fin à la récrudescence de la criminalité, mais aussi bloquer les passages pour la progression de l'ennemi. Ici, je parle de l'agresseur qui est dans les environs de la ville de Goma.
Vous êtes expert, un message à la population.
À toute la population, de faire confiance aux services de sécurité, de faire confiance aux institutions de la République et croire sans vraiment moindre doute qu'il y a des efforts considérables qui sont en train d'être fournis pour que la paix en RDC soit recouvrée.
Colonel Mungwa Konkwa Matabisi Mokili, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le juge.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde pour vous par Polydor Basunga sous la supervision et coordination de Jacques-Yves Molima et Jean-Désiré Kanyama. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Aimable auditrice et auditeur, merci de votre sympathique attention. Prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 16h, heure de Kinshasa.